L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de Pluriel Gay. Nous avons Boris aux manettes cette fois-ci.
Oui, enfin, j'essaie.
Voilà. Donc, tout à l'heure, on essaiera justement d'écouter les morceaux musicaux amenés par les invités.
Voilà, c'est ça. Ce soir, c'est un essai pour tout. On va essayer. On va essayer d'avoir Romain au téléphone aussi.
Très bien, on va essayer donc. Mais en attendant, Laurence qui est à mes côtés,
oui,
va nous présenter nos invités ES. Donc yes. On est entre femmes, on va dire.
Tu es contente, Gérald?
Moi ça va, mon côté féminin.
Non mais ça change.
Tout à fait heureux.
Ça change parce que souvent il y a beaucoup d'hommes qui sont invités.
Oui, c'est
et
vrai.
Je suis souvent la seule fille.
C'est souvent très masculin aussi.
Mais en fait, je m'en fiche. Mais je sais pas pourquoi je dis ça.
Ouais. Puis bon, en général, on invite des gens bien, non?
Oui.
Ouais.
En général.
En général.
À part quelques rares exceptions.
Voilà.
On ne citera pas de nom.
Absolument. Donc, je vais te laisser présenter nos invités.
Excusez-moi, j'ai une petite toux. Oui, alors, donc, ce soir, nous avons avec nous Ingrid Franqui.
Bonsoir.
Bonsoir, Ingrid. Réalisatrice, scénariste.
Oui, on peut dire ça.
On peut dire ça, ouais. Et nous avons Marilyn Lagneau.
Bonsoir.
Qui est une pote de fac.
Ouais.
Mais pas que.
Mais pas que.
Une pote de fac.
En qualité de pote de fac.
Exactement, voilà. Uniquement pour ça, pour dire qu'il est une ancienne pote de fac de moi. Mais aussi qu'elle travaille régulièrement avec Ingrid.
Oui.
Puisque Marilyn est caméra-woman. Tu dis woman ou pas?
Je dis que je fais partie de l'équipe image.
Très bien.
Moi.
Voilà.
Comme quoi, on a du mal encore avec les noms.
On dit cadreuse, sinon.
Cadreuse, voilà, c'est oui, pas mal. Sympa, ouais.
Cadreuse, c'est
caméra bien. Woman. On dit tennis woman maintenant.
Oui, enfin, oui on a toujours dit, non,
c'est oui, c'est vrai, si, depuis que le tennis féminin existe, peut-être, bon. Oui. On avait déjà transformé.
Mais Marilyn ne fait pas de tennis, je ne crois
oui.
pas.
Okay. Oui,
bien non.
Donc Marilyn cadreuse, qui travaille régulièrement avec Ingrid, ça fait plusieurs années, du coup, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble?
Ça fait 5 ans.
5
ans. Ouais, c'est possible.
Très bien. Et donc Ingrid est venue nous parler de son projet de film, de série.
C'est une série.
C'est une série. Mm. C'est pas un film à sketch, c'est une série.
Film à sketch? Non, je dirais plus une série.
D'accord. Donc qui se déroulera avec 5 personnages. Dans 5 pays différents et en gros qui parlera des médias et de l'influence que les médias ont sur nous. En
c'est
gros,
ça.
Voilà. Je me suis pas trompée jusque là.
Non, c'est très bien.
Parfait.
Bien pitché.
Bon, parfait. Et puis on a oublié de signaler aussi que on va avoir dans quelques minutes Romain Vallet. Nous avons régulièrement l'émission.
Ah ben un garçon lui.
Bah oui, parce que moi, je voulais absolument quand même que le sex force soit représenté, n'est-ce pas? Non, je rigole, bien sûr. Non, Romain Vallet, il se trouve que, certes, c'est un garçon, mais c'est surtout, avant tout, le rédac-chef du mensuel Hétéroclite. Voilà, et de temps en temps, il intervient à l'émission, au téléphone, voilà, pour nous parler de choses et d'autres, notamment du contenu de certains articles dans Hétéroclite et de son éditorial. Alors, je ne sais pas si nous l'avons au téléphone, mais ce soir, on va nous parler cuisine.
Mais que de ça?
Non, pas que de ça, on verra après.
Il va parler du numéro de novembre, non?
Ah bah je pense, oui.
Non, parce que je sais qu'il aime bien manger.
Le tout, c'est de l'avoir au téléphone, comme ça...
Je suis là, je vous entends. Laurent, je t'entends dire du mal.
J'ai pas dit du mal, j'ai dit que t'aimais bien manger.
Oui, j'ai dit que je suis gourmand, c'est ça.
Mais c'était un compliment, c'est
bien sûr, tu profites de la vie.
Voilà. Ouais. Bon, ce qu'on appelle un bon vivant.
Exactement.
De coup, mon cher Romain, je te remercie d'avoir accepté ce soir notre invitation à participer une nouvelle fois à l'émission par téléphone. Alors, je parlais de cuisine, on en reparlera un petit peu plus tard parce qu'il y a un projet qui est en cours dont tu aimerais nous parler, qui est en lien direct avec tes Hétéroclites, en fait. Mais je voulais savoir un petit peu si tu avais des choses à nous dire du style, je sais pas, un coup de gueule. J'aime bien quand tu es en colère, Romain. Des éditoriaux, parfois ils sont un peu au vitriol. Et moi, j'ai pas lu Hétéroclite de novembre, figure-toi encore. Donc, je voudrais savoir, dans ton éditorial, tu parles de quoi ce mois-ci?
Je parle de l'affaire Weinstein, de ses répercussions, de Balance ton porc, de MeToo, etc. Et des réactions que cela a engendré. Il y a toutes les victimes qui ont parlé, qui ont eu le courage de dire ce qu'elles avaient subi. Et puis, malheureusement, il y a eu des réactions, surtout de la part des hommes, hein, il faut bien le dire, qui n'ont pas toujours été à la hauteur de ce courage-là. Et bon, sur dans la version papier, j'ai pas eu la place, mais sur la version en ligne, j'ai tenté un petit récapitulatif de toutes les réactions stupides ou machistes ou sexistes qu'on avait pu entendre suite à cette affaire. Et c'était malheureusement assez assez consternant et assez important.
Alors justement avec Laurence, juste avant de prendre l'antenne, on en parlait un petit peu et je disais finalement tous ceux qui nous traitent de PD ne sont finalement que d'horribles prédateurs. Je viens un peu hétérophobe, je disais à Laurence. Bon, c'est peut-être un peu exagéré ma réaction, mais on a l'impression que finalement la prédation vis-à-vis des femmes est encore bien d'actualité et d'autant plus qu'elle était un peu sous-entendu, mais là, c'est véritablement une explosion de révélations, jour après jour. Voilà, donc...
Oui, mais je pense que malheureusement, les agresseurs ne sont pas uniquement des hommes hétéros. Ça peut aussi être des hommes gays. On l'a vu, par exemple, avec l'affaire Kevin Spacey. Mm-hmm. Et je pense que, en tant qu'homme, ça doit aussi nous amener à une forme d'introspection et à un examen de conscience, je pense, et ne pas se dire ah bah moi je suis pas concerné parce que évidemment je suis pas un violeur, j'ai jamais violé, etc. Je pense que c'est vraiment l'occasion d'une réflexion sur le consentement, se pencher sur nos expériences passées, sur ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire de mieux. Bon, évidemment, il y a des cas extrêmement graves quand tu le violes, mais
on parle pas seulement de viol, hein, dans Balance ton port, tout ça, c'est des femmes parlent de gestes déplacés,
parce qu'elles sont des femmes. Il y a des agressions sexuelles, il y a du harcèlement, et je pense qu'un homme gay, par exemple, déjà peut très bien commettre des agressions sexuelles, mais il peut aussi se rendre coupable de harcèlement à l'égard de femmes. De gestes déplacés, une main aux fesses par exemple, ce que je dis dans les tutos, il y a des hommes gays qui se croient autorisés à mettre
comme moi avec Laurence régulièrement,
ça n'arrête pas.
Voilà, et ben,
d'ailleurs elle va me balancer sur l'hashtag balance ton port.
Une main aux fesses à une personne non consentante, ben, même si c'est une copine, même si on est gay, même si c'est pour rigoler, ben, ça reste quand même une agression sexuelle. Je sais pas moi, dans un contexte professionnel, une main aux fesses, ça peut aussi servir à asseoir sa domination. Certains hommes gays peuvent aussi s'en rendre coupables, même s'il n'y a pas forcément du désir derrière tout ça.
Mais dans une société, je dirais, de type patriarcal comme la nôtre, ancestrale, hétéronormée, on dira, on a quand même l'impression que ça paraît un peu habituel. Un gars qui va, un chef d'entreprise par exemple, qui va faire des propositions indécentes à des employés masculins, les employés masculins, ils auront toujours la plus de facilité à dire « j'ai été harcelé par mon patron » et ça sera une victime dans le sens où le patron c'est un horrible, méchant, satyre, pervers, homosexuel, et l'employé lui pourra toujours dire « voyez, mon patron finalement c'est un pervers, etc. » Ça fait partie un peu du kit homosexualité,
oui,
pervers, etc. Tandis qu'une femme, les femmes se sont tues pendant des années, des siècles, même parce que c'était comme un mode de fonctionnement finalement.
Tu penses qu'un homme qui se fait harceler sexuellement, il aura plus de facilité à le dire ?
À le dire, oui. Parce qu'il dit, moi, je ne suis pas PD, je me suis fait harceler par mon patron qui est PD, j'ai refusé ses avances, des choses comme ça, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ?
Il sera peut-être plus facilement cru, en tout cas.
Alors, plus facilement cru, oui, mais moi, je ne suis pas sûr que... Après,
oui, mais le harceleur, il sera quand même plus, comment dire, stigmatisé, dans le sens que ça sera un homo, tu vois ce que je veux dire ? Ça plus
stigmatisé. Oui, mais là où je rejoins Laurence, c'est que peut-être que pour un homme, il y a cette difficulté supplémentaire à se dire que on est, en tant qu'homme, on n'est pas censé avoir des faiblesses, on n'est pas censé être des victimes, on doit être fort.
Donc, je ne suis pas sûr que du côté des hommes, il y a une parole libérée comme ça. Puis il y a mine de rien la pression sociale, le fait de garder son travail, il y a plein de choses qui font
que... Oui, ça peut jouer dans le cadre de domination aussi. Mais je pense par exemple... je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression quand même qu'un homme pourra plus facilement se retourner en disant... en se retranchant derrière le fait que lui, il a su répondre à quelqu'un qui lui faisait des propositions indécentes, qui n'étaient pas dans la norme. Qu'une femme, finalement, elle a toujours eu ce rôle un petit peu de victime, entre guillemets, consentante, à quelque part. Ça faisait partie de la société. de la norme sociale où il y a comme ça un rapport homme-femme de domination dans le
travail. Une forme de passivité, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et puis les hommes sont plus facilement crus aussi. Une des choses que doivent subir les victimes de violences sexuelles quand elles s'expriment, c'est souvent du slut-shaming, c'est souvent du victim-blaming, c'est-à-dire qu'on retourne... il y a une sorte de double peine, quoi. Non seulement on est violé ou harcelé sexuellement, mais en plus on est soumise à un regard inquisiteur. Est-ce qu'elle dit vrai? Est-ce que c'est pas une menteuse? Est-ce que c'est pas une allumeuse? Est-ce qu'elle a pas couché pour réussir et que maintenant elle a des regrets? Ça, je pense qu'un homme le subit beaucoup moins.
Dans Balance ton port, dans l'histoire de Balance ton port, les femmes qui donc dénoncent les faits, attention, ce ne sont pas obligatoirement des viols. Ce sont des gestes simplement déplacés. Voilà, dans le cas d'un entretien professionnel, par exemple, où un homme se croit la permission de pouvoir toucher la femme, voilà, d'avoir des attouchements avec elle, de lui toucher les cuisses. Enfin, c'est des choses comme ça aussi, qui sont mal vécues apparemment par beaucoup de femmes, ce genre de choses, mais maintenant qui sont plus dévoilées, quoi. Il y a eu comme une explosion, là, comme si on avait percé un abcès et qu'il est en train de se déverser. Par contre, on parlait aussi avec Laurent, ça c'est un fait, en revenant sur les violences sexuelles d'hommes vis-à-vis d'autres hommes, il existe aussi le viol de jeunes hommes, parce que je parlais avec elle, je connais quelqu'un par exemple qui, lorsqu'il était ado, à l'âge de 14 ans, qui a été violé, qui a été pris en stop par un homme âgé, plus âgé que lui en tout cas, mais aussi plus fort physiquement, et qui a carrément abusé de lui, qui l'a pris un peu par surprise. Mais mon camarade, c'était un ami d'enfance, et j'étais un des seuls à qui il en a parlé d'ailleurs à l'époque, me disait qu'il avait vraiment été en prise avec quelqu'un qu'il a molesté physiquement aussi pour abuser de lui. Donc ça, c'est encore un autre contexte, je dirais, que simplement dans le travail, un homme adulte qui va avoir des avances de la part d'un autre homme, des choses comme ça, ça sera encore différent.
Oui, c'est pour ça que je voulais en parler dans Hétéroclite, parce que sachant qu'on a un lectorat un lectorat gay masculin qui est quand même important, je me disais que c'est important de garder à l'esprit que les agresseurs sexuels, ça peut être nous aussi, enfin nous, nos potes, ça peut être dans nos milieux aussi, dans notre communauté gay, et c'est pas seulement une histoire de pervers hétérosexuels déviants.
Alors, je vais m'interroger toutes les personnes qui sont dans le studio. En ce qui concerne, par exemple, prenons le cas de Roman Polanski, qui a des affaires donc de violences sexuelles, d'agressions sexuelles qui le suivent depuis longtemps. Je ne sais pas ce que vous en pensez de vouloir faire interdire, par exemple, bon, la Cinémathèque, il y a une rétrospective de l'œuvre de Roman Polanski, et des groupes féministes tels que Oser, enfin des groupes, des associations féministes importantes, comme Oser le féminisme, ont manifesté ce soir-là en disant que ce n'était pas normal qu'un agresseur sexuel, un violeur de femmes, puisse bénéficier d'un tel tapis rouge dans une institution comme la Cinémathèque. Est-ce qu'on doit tout jeter le bébé et l'eau du bébé? Qu'est-ce que vous en pensez dans cette affaire? Est-ce qu'il faut censurer Roman Polanski du fait même de son agressivité vis-à-vis des femmes et des abus qu'il a commis vis-à-vis de femmes?
Ah, vous êtes contente d'être venue.
Un mot qui pensait par les cuisines, en fait.
ça arrive, mais il a l'art de faire du teasing. On a commencé.
Je sais pas, moi, je pense que c'est peut-être compliqué de faire la part des choses entre l'artiste et le côté humain, vie privée, entre guillemets. Et bah, comme tu disais, est-ce qu'on jette tout, l'eau du bain et le bébé avec? J'ai pas spécialement d'opinion là-dessus, en fait.
Ouais.
Je peux pas trancher là-dessus.
Ouais.
Après, je me dis aussi que si on doit censurer, enfin en tout cas éliminer toutes les œuvres de pervers, de déviants sexuels, etc.,
il y aurait plus grand-chose.
Ouais. Ça risque d'être un peu les catégories.
Je crois que c'était pas ce que demandaient les groupes féministes qui ont manifesté devant la Cinémathèque. C'était pas une censure ou qu'on brûle les négatifs des films de Polanski. Ce qui les a choqués, à mon avis, déjà, il y a une question de timing. C'est-à-dire, cette rétrospective, elle arrive quand même en plein moment de libération de la parole des femmes. Et il y a aussi l'impunité dont jouit Polanski, quand même, parce que c'est quand même un homme qui a été reconnu coupable, qui a fait très peu de prison, qui a reconnu les faits, qui vit depuis 40 ans une sorte d'impunité totale, et qui, même dans son milieu professionnel, même par ses pairs, en fait, je veux dire, il est, Il n'est pas du tout ostracisé, il n'est pas jugé, il est reconnu. Et ce qui était dénoncé surtout, je crois, c'est que la Cinémathèque décide non seulement de présenter ses films, et ça, à la limite, même si ça peut se faire à un autre moment, on peut le comprendre parce que c'est la vocation d'une Cinémathèque de montrer des films, mais aussi de lui rendre hommage en sa présence. Et cette question, justement, la Cinémathèque ne fait pas la distinction entre l'œuvre et l'homme. Je pense que la Cinémathèque aurait été mieux avisée déjà de programmer la rétrospective à un autre moment, et puis surtout de montrer ses films, parce qu'effectivement, il y a une œuvre importante dans l'histoire du cinéma. Et,
mais la rétrospective, à mon avis, est prévue depuis longtemps, puis il y a eu d'autres cas où,
oui,
d'autres cas où Polanski a été évincé de certaines manifestations publiques qui étaient organisées par rapport à son œuvre, où il devait présider des cérémonies, etc. C'était celle des Césars.
Il y a eu les Césars.
Voilà, alors, il devait présider les Césars, enfin la cérémonie des Césars. Et
c'est l'exception qui confirme la règle. Mmh. Regarde, il était encore accueilli et célébré à Cannes. Mmh.
Catherine Deneuve a pris sa défense, à qui elle est très amie.
Et globalement, il est encore très... je trouve qu'il jouit quand même d'une quasi-impunité, quoi. Mmh. À part, effectivement, on lui a retiré la présentation de la cérémonie du César cette année. Mais enfin, il n'est quand même pas arrivé... Parce que c'est pas à la hauteur de toute façon du crime commis, quoi. Et il y a aussi le contexte d'impunité qui explique qu'il y a besoin de faire des manifestations devant la Cinémathèque.
C'est ça. Après, il y a une question de justice, effectivement. Romain, t'as raison. C'est qu'aujourd'hui, ça pose la question de la prescription, quand même. C'est vrai que ce sentiment d'impunité, il est très difficile à accepter à la fois par les victimes et puis par toutes celles et ceux qui les soutiennent.
Mmh. Je pense quand même qu'on est dans une société de plus en plus cynique où, mine de rien, même si c'était prévu depuis longtemps que Roman Polanski soit il y a un hommage qui lui soit rendu à la Cinémathèque, il y a un peu ça tombe au moment de l'affaire Weinstein et compagnie, ça va faire le buzz et ça fera parler.
Ah, peut-être, oui.
Bien sûr.
Mais est-ce que justement, moi je reviens à mon patriarcat d'origine, il n'y a pas, quand on voit Catherine Deneuve elle-même qui est une femme qui va prendre la défense de Roman Polanski en disant « Oh, après tout, c'est pas si grave que ça ».
Non mais Deneuve, ça fait ça fait des années qu'à chaque fois qu'il y a des,
même
ce genre
Christine
d'histoire...
Boutin a pris la défense de Roman Polanski.
Mais Boutin...
non mais elle a pris sa retraite.
Non mais Boutin, on va pas en parler parce que... Là... Mais Deneuve, ça fait des années qu'elle elle prend la défense de certaines personnes, un peu, elle se dit... c'est plusieurs années qu'en fait, elle dit que, en gros, les féministes, elle les aime pas trop, les féministes, qu'elle s'est jamais considérée comme étant féministe, et que, du coup, à chaque fois qu'il y a une histoire comme ça, où il y a une atteinte qui est portée aux femmes, aux droits des femmes, je sais pas pourquoi on lui demande son avis à elle, je sais pas pourquoi, enfin, elle a le droit de le donner, tu me diras, ou à chaque fois, elle dit non, mais elle se range un peu, oui, du côté des prédateurs, en disant, où elle a dit que, par exemple, elle trouvait que des personnes soient condamnées pour viol, agression, très bien, mais qu'elle trouvait que c'était un peu trop proche de la dénonciation, que ça ne se faisait pas de balancer des noms comme ça. Mmh. Bon, au bout d'un moment, Catherine Deneuve, à la limite, je ne sais même pas pourquoi on en parle, puisque...
Pour finir avec ce sujet, je pense que le fait est, c'est qu'on est, on est en train de prendre peut-être une nouvelle tangente dans la mesure où beaucoup de femmes ont subi des choses dans leur vie professionnelle qui faisaient partie un petit peu du cursus professionnel des femmes dans certains milieux, et que maintenant on est en train de dire, mais ce que vous avez vécu, mesdames, c'est pas normal. Ça fait pas partie de la règle.
Oui, mais le problème, c'est que c'est pas uniquement dans le milieu du cinéma ou dans
certains milieux.
Weinstein, s'il avait été plombier, il aurait fait les mêmes saloperies.
Oui. Peut-être aurait-il été condamné plus facilement avant.
Peut-être, mais on ne sait même pas.
On ne sait pas.
On ne sait même pas.
On ne saura jamais.
Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'en effet, ça fait des décennies et des décennies encore où on pensait qu'il y avait certaines agressions sur les femmes qui n'existaient plus. Alors, moins, on va dire. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Et il y a le cas de la Suède, où il y a 456... Ouais. Comédiennes, actrices, scénaristes qui ont signé une pétition.
C'est hallucinant, surtout dans des pays comme ça.
Qui ont été victimes de viols, d'agressions sexuelles, de harcèlement au niveau professionnel, mais c'est juste hallucinant. Ah ouais. Mais en même temps, c'est dans tous les secteurs pareil. Quelqu'un qui va bosser, qui va être comptable, qui va être vendeuse, qui va travailler à la poste, ça va être la même chose.
Eh bien, sur ces bonnes paroles.
Très joyeuses.
<C'est génial. rire> Enfin, il faut espérer quand même qu'il va se passer quelque chose par rapport à toutes ces... Une prise de conscience déjà, effectivement, puis une remise en question, comme le disait Romain, finalement, de nous autres, nous les hommes. Hein, Romain, tu t'es remis en question ouais. depuis ? T'as arrêté d'agresser tes petits stagiaires dans les bureaux de Hétéroclite.
Non, mais non, pareil, effectivement, non. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir commis des faits graves pour au moins revisiter un peu ses expériences passées, notamment ses expériences sexuelles, comment ça s'est passé avec tel partenaire, est-ce que vraiment on en avait tous les deux envie, ou est-ce qu'il y en a un qui avait plus envie que l'autre. Voilà, je pense que tout le monde peut... Il y a certainement à gagner à mener cette introspection.
Très bien. Alors, on va changer...
Si on parle de bouffe, maintenant.
Voilà, on va complètement changer de sujet de conversation, je vais y arriver. Puisqu'on avait évoqué effectivement de la gastronomie, qu'on allait parler gastronomie, enfin pas exactement gastronomie, d'un livre de gastronomie.
Ouais.
Un livre de cuisine queer.
Yeah.
Voilà, qui s'appelle Braise-moi. Alors de quoi s'agit-il exactement ? C'est en lien avec Hétéroclite d'ailleurs, avec le mensuel.
Oui, tout à fait, puisque c'est la première fois que Hétéroclite se lance dans l'édition autre que, évidemment, nos guides, notre mensuel, etc. Mais là, c'est un vrai livre en dur, en cartonné, si on peut dire. Et donc, on se lance dans ce projet-là. En fait, c'est parti de la rubrique culinaire d'Hétéroclite qui s'appelle « Les recettes de Boubi », qu'on retrouve à la fin du journal depuis 2 ans maintenant, et qui présente des recettes de cuisine. Donc c'est des vraies recettes de cuisine qu'on peut suivre à la lettre et réaliser de vrais plats, mais qui sont détournées, agrémentées de références à la culture queer, à la culture pop également. Voilà, et ce n'est pas un simple manuel, voilà, faites ceci, cassez les œufs, faites cela... Non, c'est vraiment une lecture plaisante et agréable.
Mais il y a quoi comme type de recette ? Moi, je veux un exemple.
Alors, par exemple, il y a le flan cul. Le flan cul sans prise de tête. Il y a la fameuse tarte au poil.
La fameuse ?
Ah non, vous n'avez pas osé.
Oui, c'est une vraie tarte. Hein. On peut manger. Il y a le mi-cuir au chocolat. Le Burger Queen. après, il y a toute la série autour des stars de la pop. Alors, il y a le Shakira Mistou, la Terrine Dion, ça c'est pour Boris.
Que j'ai lu.
Ouais.
Attentivement.
Le Chutney Spears. Voilà, c'est pour vous donner quelques idées comme ça de recettes. Le saumon Travelax aussi.
On avait le saumon transgénique. Mais ouais. C'est le Travelax, d'accord.
Le Cake Moss.
Et tout ça, c'est des vraies recettes en fait.
Tout à fait, oui, c'est des vraies recettes que vous pouvez réaliser.
Elles sont réalisables.
Tout à fait, exactement.
D'accord. À plusieurs, à une main, à deux mains ou à quatre mains ou à plus.
Exactement, si vous le voulez bien.
Alors donc ça, c'est un livre, mais c'est un projet de livre en fait de cuisine.
Ah bah le livre, il est déjà bien, sa fabrication est bien commencée.
D'accord.
Mais là, pour l'instant, on est en phase de financement.
D'accord.
Donc vous pouvez dès à présent préacheter le livre sur KissKissBankBank, sur une plateforme en fait de crowdfunding, de
oui.
financement participatif.
Oui.
Et on peut le préacheter et le recevoir. Donc la livraison est prévue pour mi-février, à peu près aux alentours de la Saint-Valentin. Donc ça peut faire un très bon cadeau de Saint-Valentin.
D'accord. Donc on va sur le site, la levée de fonds, je dirais.
KissKissBankBank.
KissKissBankBank n'est pas terminé encore parce qu'il y a des
abus,
ça en cours. Voilà.
Il y a encore un peu plus de 2 semaines.
2 semaines.
Voire 3 même, je crois, de 3 semaines.
Enfin, donc il faut aller sur KissKissBankBank.
Oui, ou vous tapez simplement braise-moi sur Google.
Ouais.
Alors n'oubliez pas le R parce que sinon vous allez tomber sur des choses qui n'ont rien à voir avec nous.
Oui.
Bon, je pense qu'on peut quand même tomber sur des trucs chelous, Romain, même si on n'oublie pas le R.
Donc braise-moi sur Google ou alors vous allez sur hétéroclite.org et là il y a un gros habillage rose en haut, à droite, à gauche et en bas du site. Vous ne pouvez pas le manquer. Et en cliquant sur l'habillage, vous êtes redirigé vers le Kiss Kiss Bank Bank.
Kiss Kiss Bank Bank, où on peut faire des dons en ligne.
On peut faire des dons en ligne, on peut, les 100 premiers acheteurs du livre bénéficieront d'un tarif réduit à 22 €. Ensuite, le tarif normal, c'est 25 €. On peut donner un peu moins si on veut ne pas avoir le livre, mais quand même soutenir et puis recevoir un petit goodies en récompense. On peut donner un peu plus aussi si on a de l'argent et si on veut soutenir Hétéroclite et si on veut recevoir des goodies et plusieurs exemplaires du livre. Donc voilà, il y a aussi une présentation détaillée du projet. Qui sont les auteurs, enfin qui est l'autrice plutôt, puisque c'est Émilie Bouvier, qui est une de nos collaboratrices, qui est en charge d'écrire les recettes. Et c'est une photographe qui s'appelle Anne Bouillot, qui est spécialisée dans la photographie culinaire, qui est chargée de la photographie et de l'illustration.
Oui, donc, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà de la blague, c'est quand même très très bien écrit.
Ah, et, merci.
Et vraiment, non mais vraiment, c'est moi je...
Ah, mais on n'en doute pas, Boris.
J'ose même dire que je crois que c'était la première chose que je lisais quand j'ouvrais Hétéroclite tous les mois. Ouais. Il y avait des sujets très sérieux, hein, très intéressants aussi, mais j'allais tout de suite voir la recette.
Ouais. Mais c'est vrai qu'elles sont rigolotes, les recettes, oui, aussi. Oui. La façon dont c'est fait, dont c'est écrit, l'esprit, c'est rigolo, quoi, c'est marrant. Ça invite
donc,
à sourire.
Il y aura des recettes qui ont déjà été publiées dans Hétéroclite, mais il y en aura également
inédites,
voilà, qui ont été créées spécialement pour l'occasion. Émilie a passé une bonne partie de son été à cuisiner, à inventer des recettes, à prendre des photos.
D'accord.
Voilà.
Ah, la Terrine Dion, moi.
La Terrine Dion, c'est génial. La Terrine Dion.
La Terrine Dion, ouais. Qui était paru en mars pour l'anniversaire de Céline, justement. Bah, Boris y avait pensé.
Hein, oui, tout à fait. Les auditeurs vont se dire, mais pourquoi il parle de Céline Dion systématiquement à Boris? On ne dévoilera pas le secret, le pourquoi, c'est comme ça.
Ouais. Alors, les filles, ça a l'air de plus vous inspirer la cuisine que Balance ton porc.
Bah, Balance ton porc dans la cuisine, hein. Cordonnade ou...
C'est vrai.
Ça, c'est la prochaine recette.
Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, bah écoute, Romain, merci en tout cas d'avoir participé ce soir. Alors, à moins que tu aies quelque chose d'autre, d'important
bon,
à nous dire.
Je vais essayer peut-être vous inviter à s'exprimer.
Oui, voilà. On va prendre la seconde partie de notre émission avec nos invités. On va l'attaquer. On va attaquer par une chanson. Alors, Romain, en tout cas, merci.
Hein. Merci, Romain.
Et merci à vous.
Et à très bientôt. Donc, donne-nous des nouvelles de Brezmois, surtout.
Hein. Ouais.
Mais moi, j'enverrai des infos, toujours pareil, sur des réseaux sociaux de l'émission. À bientôt. Merci beaucoup, Romain.
À bientôt.
Bonne soirée. Alors, là, on va passer de musique. Moi, on va essayer de passer de musique.
Donc, croisons les doigts.
Je voudrais que... C'est toi, Ingrid, qui a fait la programmation musicale.
Ouais.
Donc, tu vas nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Notamment, enfin, le morceau qu'on va écouter. Non,
bah... C'est Angélique Yannatos. Qui est grec.
Oui.
Et voilà, mais en fait, ça fait partie de mon histoire, parce que j'ai plusieurs origines, dont la Grèce, en fait.
Ouais.
Donc voilà, j'avais envie de choisir un petit peu des morceaux qui me ressemblent et qui ressemblent un petit peu à ma façon
de voir les choses.
Ouais. Ah ouais.
Alors on va...
Donc, si ça marche,
Boris,
c'est cool.
Maestro. Tintin. Le suspense est à son comble. Tintin. T'as vu, je fais bien la musique de suspense.
Pas mal.
Tintin.
T'es doué pour plein de choses.
C'est le suspense, ça.
Comment bon, Gérald, vous ne comprendriez pas comme, comme bruit.
C'est le suspense, c'est gay. C'est un peu différent, d'accord. Okay.
C'est pour ça.
Bon, meublé.
Non, ah,
il bon. Arrive absolument pas.
Autrement, tu chantes une chanson de Terrine Dion.
Non, mais parce que ça, avant, ça marche, mais sans son. Donc, pour
la
raison, c'est un peu compliqué.
C'est un concept. C'est un concept.
Oui, c'est vrai. Alors, il doit falloir monter un curseur à quelque part, je pense, mais...
T'as tout branché derrière.
C'est curseur.
Bon, sinon, on va parler directement, en attendant que ça marche,
mais
hein,
c'est dommage.
De ce pourquoi nos invités sont là.
Parce qu'elle est très belle, cette chanson.
Ouais,
magnifique.
Ouais.
Tu peux nous la chanter, peut-être,
bah,
Ingrid.
Oui.
Oh, en grec, ça
en
va
grec,
être...
bah oui.
Ouais, vraiment.
Justement.
Je peux faire des efforts, vraiment, mais là, c'est...
Bon, alors, pendant que Boris va essayer de lancer la chanson...
Tu nous dis, Bobo, quand t'es prêt.
Voilà. Ah, t'es prêt?
Non.
Non, t'es pas prêt. On va donc revenir au cœur du sujet qui nous intéresse ce soir, qui est donc la série que tu évoquais, Laurence, en début d'émission. Une série donc de 5 épisodes, c'est ça, on peut dire comme ça?
Bah pour l'instant en tout cas, ouais. C'est 5 épisodes.
Ah oui, parce qu'il pourrait pour y en avoir d'autres.
Ouais. Mmh. Ouais, c'est un projet qui est un peu particulier parce que il est assez évolutif. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'écrire il y a un an et pendant 6 mois à peu près, mais j'ai pas arrêté d'écrire parce que j'ai commencé à tourner.
D'accord.
Donc tant que les idées viennent et que j'ai des choses à raconter, ben je m'autorise le droit de continuer à écrire.
Donc il pourrait y avoir 6 ou 20 ou 30
Bon, après c'est aussi une question d'envie, d'avoir envie de raconter des choses par rapport à toujours à ce sujet-là. Bon après je trouve qu'il y a tellement de choses à raconter sur les médias que c'est presque sans fin, mais en tout cas...
Oui, parce que le fil conducteur, c'est les médias contemporains, on va dire.
Ouais. Après, c'est assez généraliste, hein, les médias,
ça englobe...
Ouais, voilà.
La radio...
C'est ça. Enfin, pour l'instant, en tout cas, j'ai traité plus de la télé, le cinéma, les réseaux sociaux,
ouais.
Surtout les réseaux sociaux.
Mmh.
Et l'influence que ça peut avoir sur nos vies, quoi.
Mais les réseaux sociaux, ils sont venus bouleverser quand même un petit peu nos existences, puisque il y a peu de temps qu'ils sont là, finalement, développés. Et ça a transformé quand même la vie sociale, je dirais, carrément.
Ça a transformé notre façon de voir le monde, d'avoir des relations avec les autres aussi, avec nous-mêmes, quoi. Donc,
alors, est-ce que c'est plutôt positif ou négatif?
J'ai pas envie d'y mettre un bémol ou un dièse, je sais pas comment dire, mais en tout cas en fait avec cette série je donne un point de vue un petit peu sur à travers plus l'humain, en fait, c'est-à-dire que bon, les médias c'est un comment dirais-je c'est des moyens pour raconter une histoire, mais c'est surtout on raconte une histoire humaine, en fait, comment je sais pas on vit avec les médias, en fait. Parce que du coup, je veux pas y mettre quelque chose de négatif. Ils sont là, en fait. Donc,
ouais.
De toute façon, il faut, voilà, ils font partie de nous, ils font partie de notre vie.
Donc, est-ce que dans la série, par exemple, dont tu nous parles, il y a quand même un jugement de valeur par rapport à ces réseaux sociaux? Est-ce que justement, on montre des choses, des personnages se trouvent dans des situations
un peu extrêmes, on va dire. Oui, tout à fait, ouais. Mm-hmm. Après, pas que forcément sur les réseaux sociaux, mais là, par exemple, le premier épisode, je parle, par exemple, d'une jeune fille, enfin, une jeune femme qui a maintenant 27-28 ans, qui a été ancienne enfant star, qui a tourné dans un sitcom dans les années 90. Donc, comment ce star system l'a un peu détruite, en fait. Mm-hmm. Voilà.
Et du coup, alors... dans le résumé là, pour le premier personnage, pour l'ex-enfant star, c'est l'entreprise que tu dis pour laquelle elle travaillait quand elle était enfant, c'est apparenté, on peut le dire ou pas?
Bah je sais pas, oui, on peut le dire. Bah après c'est... Allons-y.
Apparenté à Disney.
Ouais.
Voilà, toi tu l'appelles, on peut dire aussi on peut parler de tout ce que qui est prévu pour l'instant.
Tout à fait. Oh, surtout ça on a déjà commencé à tourner
D'accord.
Le premier épisode est à la trois quarts filmé, en fait.
D'accord. Donc ce que toi tu appelles Neo World,
ouais.
C'est ça qu'on peut apparenter à Disney.
Ce que j'apparente à Disney.
Ce que tu apparentes à Disney.
Ouais.
Donc de faits réels, t'es parti de faits réels, parce que quand...
En fait, tout est parti de faits réels ou de choses soit que...
Lues, vues, entendues.
Que vécues, entendues, parlées avec d'autres personnes, et puis après j'y ai fait une fiction. Par contre, hein, c'est toujours des fictions, et on part toujours de faits réels.
Mais ça, c'est,
voilà,
c'est quelque
chose. Aujourd'hui, on va parler...
Ah non, ça c'est bah, non, pas très hébergé, non, on parlera de rien.
Mais
non, c'était pas Angélique Yonatos.
Hein. Non,
pas
du tout.
Non, c'est pas ça. Du coup, je sais pas, dans les projets que tu as développés avant, est-ce qu'il y a déjà... Enfin, c'est toujours important pour toi de parler, de partir du réel, ou pas forcément?
Moi, ouais, je pense que c'est assez important, ouais. Parce que... je sais pas, après, c'est une façon peut-être... comment dire... C'est toujours l'humain qui est, je pense, au départ... la relation humaine et effectivement il y a pas mal de films qui sont partis de pas forcément de faits réels, parce que faits réels ça fait un peu fait divers un peu mais vraiment de quelque chose de réel, quoi.
Bah là il y a quand même une histoire, donc c'est à Oran, le patron de bar à Oran, ça part
alors,
d'un fait réel.
Ça c'est une histoire vraie, on va dire, qui s'est passée au Maroc, où ce sont deux jeunes filles qui ont été emprisonnées parce qu'elles se sont embrassées sur un toit d'un immeuble, en fait. Donc, j'ai trouvé cette histoire assez intéressante dans le sens où... fait, je me suis imaginé leur vie à ces jeunes filles, parce qu'elles ont été quand même dénoncées par leur famille, et elles ont été en... il y a eu un procès, tout ça. Donc après, je me suis dit, en fait, c'est grâce à la presse et aux médias, on a réussi à en parler, et du coup, à ce qu'elles sortent un peu de cette histoire-là. Et je me suis dit, comment ces jeunes filles vont rentrer chez elles après ? Ça, on n'en parle pas, en fait, dans les médias. Parce que les médias, bon, ils vont parler du procès, des choses un petit peu généralistes, mais l'humain derrière. C'est-à-dire que les deux filles qui vont rentrer chez elles et qui vont être confrontées aux personnes qui les ont dénoncées, ça m'intéresse. Ou les personnes qui ont... Bah, du procès aussi, les personnes qui les ont arrêtées, les personnes qui les ont aidées ou pas aidées. Tout ça, ça fait partie de le côté humain dont je parle. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Pardon, je... Je perds ma voix.
Plus aller vraiment en profondeur, voir toujours un peu ce qui se cache derrière.
Ouais, c'est ça.
Parce que là, c'est vrai, au final, ces deux jeunes femmes, on n'en entend plus parler.
Non. En fait, l'information, je l'ai eue après sur... du coup, je suis allée sur Internet. Il y a eu pas mal de... Il y a Tel Quel, c'est un journal marocain qui a repris un petit peu l'affaire. Ça fait plus d'un an hein, maintenant. Mmh. Donc le dernier article que j'ai lu, c'est elles sont sorties d'affaire... Voilà, mais c'est tout. Mais oui. Bon, déjà, on a eu l'information comme quoi elles étaient...
Oui, elles sont pas en prison, par exemple.
Tout à fait, elles sont sorties de prison, oui. Donc, mais ça va pas plus loin, en fait. Et même, j'ai aussi contacté les journalistes qui ont écrit des papiers là-dessus. Et bon, il y a des journalistes qui n'ont... À part écrire un papier sur un contenu assez général, on n'est pas allé plus loin non plus, parce qu'ils n'en savent rien, en fait.
Oui, bah oui.
Mais...
C'est juste balancer de l'info comme ça. Pour dénoncer, pour critiquer ou pour juste...
Pour donner une information.
Donner une information,
tout à fait.
Okay. Et du coup, c'est cette histoire-là qui t'a donné après l'idée de développer tout le projet de la série.
En fait, je pense qu'il y a eu... Bon, il y a eu plusieurs facteurs, mais notamment cette histoire-là, parce qu'elle m'a un petit peu marquée, en fait, dans la manière dont elle a été traitée justement par les médias. Ou pas, d'ailleurs. Pas être traitée par les médias. Et après, j'avais aussi l'envie de travailler différemment. C'est-à-dire que, pour le coup, là, c'est vraiment un projet autoproduit. Et je me permets des choses que je ne me permettais pas avant. Par exemple, donc j'ai fait beaucoup de films, où, de manière, je ne sais pas comment on peut dire, classique. C'est-à-dire avec une équipe, chacun son poste, tout ça. Et là, j'avais vraiment envie de sortir de ça, en fait. De sortir du cadrage, du formatage, en fait. Et quand on fait un projet personnel, c'est là, je pense, qu'on peut quand même se permettre d'expérimenter des choses. Parce que quand on est avec une production, sauf si on connaît très bien la personne, le producteur, mais c'est pas forcément le cas tout le temps, on peut pas faire ce qu'on veut, en fait. Et je crois que j'avais besoin de cette liberté-là. Et avec ce projet-là, c'est quelque chose que j'expérimente.
D'accord.
Qui n'est pas forcément facile, hein. Pour l'équipe, on pourra en parler. Là-bas. Non, mais c'est parce que c'est des choses assez expérimentales, justement, et c'est pas évident, en fait, à suivre.
Oui, parce que toutes les équipes sont habituées, justement, au mode de fonctionnement classique.
Oui.
Du coup, s'attendent à retrouver ce mode de fonctionnement-là, et, sauf que non. Quoi.
Parce que, du coup, concrètement, une journée de tournage, elle se passe de manière différente d'une journée de tournage classique.
Quoi, ouais, tout à fait, oui.
Les différences, c'est...
Moi, je base le travail sur l'improvisation. Après, il y a aussi des tournages qui se basent sur de l'impro, hein, je suis pas la seule et je n'ai pas inventé un truc de fou, mais disons que le tournage classique, c'est on a écrit un scénario, un découpage, on a fait un plan de travail, on a bien préparé en amont, on a fait les repérages, on a chacun un technicien à chaque poste et on tourne et chacun sait ce qu'il a à faire et le texte qu'il doit dire. Là, c'est différent parce que donc je t'ai envoyé le scénario, il n'y a pas de dialogue par exemple, donc il y a une trame. Mais les acteurs sont libres. Donc, c'est-à-dire qu'on improvise. Et la technique s'adapte à ça. Ce qui n'est pas... Normalement, c'est pas le cas, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on on fait d'abord la technique, on pose les caméras, on pose les lumières, et après on joue. Et on joue dans un espace restreint. Mais là, j'avais envie de faire l'inverse, en fait. J'avais envie que le jeu soit le leader, un peu, du tournage, quoi, si je peux dire. Donc les acteurs ont quasiment... Enfin, ils sont libres d'improviser. Bon, par contre, il y a des scènes, il y a un début, il y a une fin, et on travaille ensemble avec les acteurs, donc on répète beaucoup, on tourne, et en fonction de ce qui se passe dans la scène, après, je réécris le scénario.
Là, on voit Laurent se bloquer.
Là, ils vont dire,
elle a fait un arrêt sur image.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que si un acteur me propose des informations qui m'intéressent mais qui n'étaient pas prévues au scénario, ben, du coup, je réécris une partie du scénario pour que ça matche bien, en fait. Enfin, que l'information qui m'est donnée matche avec le scénario que j'ai écrit.
D'accord. Mais du coup, là, c'est dans le cas où tu n'as pas encore tourné la scène. C'est en répétition.
C'est-à-dire on tourne, donc on a répété un petit peu.
La répétition se passe le jour même, en fait, le jour du tournage.
Oui.
Juste avant de tourner vraiment, donc on tourne.
Oui.
Et si là, parce que les acteurs, vu qu'ils sont en impro, ils disent pas tout le temps la même chose.
Oui,
donc,
bien sûr.
On a vu un truc en répète, ça fonctionne bien, on tourne, tout ça, c'est très bien. Sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui me fait un truc, qui a un truc en plus.
Oui.
Alors des fois, c'est pas bon, mais des fois, c'est super. Je me dis, ah ouais, c'est génial ça. Par contre, c'était pas du tout prévu au programme, quoi. Mais c'est pas grave, on va le garder. Donc du coup, le soir, eh ben, je me retape les...
D'accord.
Et j'écoute en fait ce qui a été dit. Je réécris les scènes après pour que ça soit, dans la chronologie, d'accord, par exemple, ou que dans l'histoire, ça matche bien, quoi.
Ça y est, j'ai compris. Excusez-moi, petit passage à vide.
Et donc, ça se passe dans différents pays.
Ouais.
Donc, Varsovie, j'ai vu en Pologne à Oran, etc. Vous êtes allé filmer sur place, alors ?
Là, on va y aller. On va y aller, en fait. C'est prévu que... Là, on a tourné en Bretagne. Bon, on tourne en France, déjà.
C'est exotique, quand même, la
c'est
Bretagne.
C'est très bien, la Bretagne.
Très, très bien, la Bretagne. On va tourner à Lyon, à Paris, à Marseille. Et on va tourner en Pologne et, j'espère, en Algérie, si c'est possible. Si on arrive à trouver des personnes pour nous aider. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va dans un lieu, que ce soit en France ou à l'étranger, hein, ça sera dans le même principe, on va travailler avec des gens sur place. Et puis... On est en espèce quand même de collaboration. Il y a un partenariat assez fort qui se crée. Quand on est allé en Bretagne, on a été accueillis par une famille, qui est la famille de l'actrice principale, Marion Le Chevalier. Bon, bah, ça a été vraiment une aventure humaine exceptionnelle, quoi. Ils étaient à fond dans le projet. Le père a joué dans le film. Ils nous ont prêté des lieux de tournage. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de fort qui s'est créé. Donc j'essaye à chaque fois de recréer cette chose-là qui, pour moi, c'est toujours le côté humain qui prime, hein. Dès qu'on va tourner quelque part, quoi.
D'accord, donc on va interrompre un petit peu notre conversation puisque Boris me signale que ça y est, on va pouvoir écouter la chanson Angélique Ionatos. C'est bon ? Eh bien, c'est parti.
Allez.
Eh bien, de retour sur Pluriel Gay, nous retrouvons donc Marilyn et Ingrid, nos invités. Alors Ingrid, cinéaste, qui nous a parlé du projet qu'elle est en train de développer. Marilyn, j'aimerais bien que tu t'exprimes justement, parce qu'on parlait juste un petit peu avant la chanson, donc de la façon atypique que Ingrid a de travailler. Et il a fallu un petit peu t'adapter, puis tous les techniciens, tous les acteurs, actrices apparemment ont dû s'adapter. Finalement, à cet univers nouveau, quoi, de cette façon de travailler, en tout cas nouvelle.
Bah, après, pour moi, personnellement, ce n'était pas tellement nouveau, parce que tu as enfin, toujours eu ce désir de travailler comme ça. Et on s'est déjà retrouvé sur des projets en toute petite équipe, où il y avait ça, en gros, c'est tu fonces, on te suit, on essaye de te suivre comme ça, dans les méandres de la création.
De mon esprit qui n'est pas forcément très...
Disons qu'il va vite, quoi. Ça va vite, donc derrière, il faut courir un peu. Mais...
En fait, j'ai conscience quand même de demander un engagement et un effort de la part de l'équipe. J'en ai vraiment conscience, quoi. Mais... Enfin, en fait, c'est un engagement commun, quoi. C'est-à-dire que... Moi, j'ai un projet, voilà, j'ai envie de le faire comme ça, et du coup, je vais faire un espèce de casting... pour les acteurs évidemment, mais aussi pour les techniciens qui ont envie de travailler dans ce sens-là, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie, et je respecte vraiment ça, et du coup on travaille pas ensemble, quoi, pour ce projet-là en tout cas.
Mais du coup c'est, enfin je veux dire, c'est fou qu'il y ait des personnes qui aient, mais en fait les techniciens par exemple qui veulent pas travailler avec toi de cette façon, leur raison c'est quoi?
En fait ils le disent pas forcément clairement, non j'ai pas envie de travailler comme ça, mais en fait on se rend compte que c'est une méthode de travail qui n'est pas forcément adaptée à tout le monde, parce que il faut avoir
vas-y. Prenons l'exemple, un tournage classique, tu vas avoir un découpage. Donc du découpage va découler un plan de travail. On commence par un plan large, puis un plan serré, puis machin, truc chouette. Comme ça chaque technicien a vraiment le temps et le comment dire, les moyens de préparer les choses, de poser ses lumières, de poser ses micros, de faire sa déco, etc. Et ça c'est un confort en fait pour le technicien. Le fait d'improviser avec les acteurs et ensuite la technique vient se greffer là-dessus, du coup, nous aussi, on est forcé d'improviser, de s'adapter vraiment à ce qui se passe, à ce qui se crée sur le plateau. Et ça, c'est pas confort du tout. On se met vraiment en danger. Et c'est pas classique. Et du coup, bah, chaque mois, des fois, j'ai eu des petites frustrations à me dire bah, j'aurais pu faire mieux, avec plus de préparation, voilà, etc. Et voilà, faut quand même lâcher un petit peu la bride, se dire que c'est le jeu qui prime, de toute façon. Et que nous, bah, on s'efface un petit peu, et puis on...
Voilà, en fait, il faut lâcher prise et suivre le mouvement, quoi.
Ouais, mais c'est la lâcher prise, c'est exactement le mot, en fait. Il faut pas avoir peur, en fait. Parce que je me rends compte que si finalement un technicien refuse de faire ça, je pense que c'est aussi par peur, mais peut-être aussi parce que, bah, il a pas envie de s'engager dans une telle histoire ou telle aventure, mais je pense que c'est une peur aussi, parce qu'on sait pas où on va, en fait. Alors moi, ça me bat, parce que c'est mon projet, c'est moi qui l'ai initié, mais voilà, quelqu'un d'extérieur comme ça qui vient, je peux comprendre que ça fasse peur, quoi.
En fait, du coup, cette manière de travailler, elle colle complètement avec, en gros, ce que vivent, enfin, le sujet de ta série. En gros, cette notion de liberté, en fait, où peut-être que des fois, la liberté, elle peut faire un peu peur. En gros, là, les personnages de ta série... elles se prennent un peu tout dans la figure, elles savent pas, elles sont obligées de voir un peu si j'ai bien tout cerné, quoi. Gérer au jour le jour quelles infos ça va tomber et comment et telle façon et comment je vais gérer ça.
Bah, pas tous les personnages, parce qu'il y en a qui maîtrisent un peu plus l'information que d'autres, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a des personnages qui subissent en fait l'information ou qui subissent un espèce de système comme ça, des médiatiques on va dire. Donc c'est vrai qu'on... C'est horrible en fait parce que je leur fais subir ça, quoi, aux techniciens. mais voilà, après c'est plus une question de liberté de création qui pour moi était vraiment importante au départ, quoi.
Et comme il y a de l'impro, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que tu fixes des limites quand même? C'est toi qui cadres quand même?
Oui, bien sûr, on cadre. En fait, on parle beaucoup avec les acteurs. En fait, je dis qu'il n'y a pas une préparation, mais en fait, il y a une énorme préparation avec les acteurs. Enfin, une énorme. Ça dépend des acteurs, parce qu'il y en a qui ont besoin d'une grosse préparation, il y en a qui ont besoin qu'on se voit, il y en a qui ont besoin qu'on se voit pas trop, il y en a qui ont besoin... Enfin, je m'adapte en fait quand même en fonction de leur façon de travailler. Et on cadre... Je dis pas qu'il y a... Non, il n'y a pas vraiment de limite, en fait.
Je me rappelle une fois où tu... je sais plus quel comédien, quel personnage avait soumis une réplique, Et tu me disais, ouais, c'est peut-être un peu too much. Et en fait, la conclusion qu'on avait eue, c'est on s'en fout puisqu'on fait ce qu'on veut. Quoi.
Bah oui, parce qu'en fait, voilà, pour parler de la diffusion aussi de ce projet, en fait, la finalité de ce projet, c'est quoi ? C'est de... On ne sait pas encore où est-ce que ça va être diffusé. Donc, j'ai pas envie de me mettre des barrières maintenant en me disant, ah ouais, alors si c'est diffusé sur telle chaîne ou telle plateforme, est-ce que c'est bien qu'on parle de ça ou de ça ? Pff, non, surtout pas. En fait, c'est vraiment ça que je voulais éviter aussi dans la manière de travailler. Parce que finalement, quand on travaille avec un producteur et un diffuseur, il y a forcément un cahier des charges, il y a forcément une ligne éditoriale à suivre. Voilà, c'est ce qui est normal, quoi. Donc, on peut pas déroger à ça. Et là, pour le coup, ben, j'avais vraiment envie de sortir de ça et de me dire, ben, vas-y, on se lâche, quoi.
Pas de censure, quoi.
Non ?
Pas de censure, pas de non plus de stress, je dirais, lié à un timing particulier.
Alors non. Et ça, c'est vraiment une grosse liberté d'avoir du temps de faire les choses aussi, parce que généralement, quand on crée pour avec un producteur ou un diffuseur, on a tout le temps un timing à respecter, puisqu'on a une grille, la chaîne a toujours une grille de diffusion, quoi. Alors que là, bah, je me dis, bah, là, ça fait un an que j'ai commencé, peut-être que j'en aurai encore pour 2 ans. Bon, bah, c'est pas grave. Je me mets pas de stress avec ça, quoi.
Et en ce qui concerne la diffusion, donc tu espères que ce sera diffusé,
est-ce que... Ce sera diffusé, bien sûr. Après, il faut choisir la meilleure façon de diffuser, en fait. Parce que justement, alors est-ce que Internet est toujours une plateforme ouverte ? Donc après, il faut voir aussi s'il n'y a pas... Je ne sais pas, en fait. Là, je réfléchis à ça, en fait. Vraiment, je me suis posé plein de questions et je ne sais pas si... Vers quoi je vais, quoi.
C'est un projet que tu peux présenter éventuellement dans des festivals ?
Ah oui, ça oui, bien sûr. Ouais, tout à fait.
Et qui peuvent éventuellement... Enfin, après, faire tremplin pour...
Tout à fait. Après, le fait aussi que ce projet soit un peu... pas que en France, en fait. Il sera aussi... Donc, on va tourner à l'étranger. J'ai plutôt tendance à aller aussi vers l'étranger, quoi.
Dans l'absolu, une diffusion télévision, c'est l'idéal ou...
Ben, en fait, ça m'embête un peu de dire que c'est idéal, parce que... Pourquoi ? Pourquoi on dirait que la télé, c'est idéal, en fait ? C'est bien, c'est un support en plus, comme le cinéma, comme Internet, mais j'ai pas envie de penser ou de dire que la télé, c'est idéal. Ben non, la télé, quand on regarde ce qu'il y a... ce qui est bien, c'est que ça sera acheté. Ça serait super. Oui. Comme ça pourrait me permettre de payer les gens qui ont été dessus. Ça serait super. Après, de dire que la télé, c'est idéal, je suis pas convaincue, quoi. Et après, il y a des chaînes qui sont très bien. Hein. Je suis pas en train de dénigrer la télé, hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Mais il faut savoir choisir aussi avec qui on travaille, je pense.
Une diffusion en cinéma, tu l'espères aussi ou
Bah, ça serait bien. Dans les salles de cinéma. En plus, même s'il y a un débat après derrière, s'il y a une rencontre, moi, j'aime bien ça. Ça, c'est bien, c'est... Carrément.
Ah oui.
Et puis les festivals, c'est super aussi parce qu'on peut rencontrer d'autres réalisateurs, d'autres techniciens, d'autres acteurs avec qui on peut travailler. Et, en tout cas, penser à d'autres projets aussi, quoi.
Oui, puis c'est souvent l'occasion, les festivals, justement, de voir de découvrir en fait des choses.
J'adore les festivals. Ouais. En fait, à chaque fois que je suis invité dans un festival, mais c'est vraiment le bonheur en fait. Parce qu'on voit des films, on voit son film sur l'écran, on est à l'hôtel. franchement, et. C'est génial, quoi. Et puis on voit que des trucs qui sont différents, en fait, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et on voit des créateurs qui sont... Enfin, on se rend compte à ce moment-là qu'on n'est pas tout seul, quoi. Et ça, c'est génial.
Puis c'est des rencontres aussi.
Ouais.
Même les pas seulement... Enfin, même les spectateurs avec...
Ah oui, bien sûr.
Avec les techniciens
puis
ou
là, les réalisateurs. C'est des gens qui se bougent de chez eux pour venir. Donc ils sont... Ils ont choisi d'être là, quoi. Donc ils sont plutôt ouverts.
Bon, et bien notre petit technicien Boris décide que l'heure tourne, nous allons donc devoir nous séparer. Est-ce qu'il y a un titre déjà cette série ?
Bah justement, non. En fait, c'est en cours là.
C'est en cours.
C'est évolutif aussi, j'ai pas de titre. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Ça peut être une idée. Ouais. Faire un appel à titre.
Un appel à titre.
Bah, merci les filles d'être venues parler de votre projet. Et puis, on continuera d'avoir des infos pour le diffuser.
J'espère qu'on pourra revenir pour...
Avec plaisir, il n'y a aucun problème, aucun souci. Et puis, Laurence, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Écoute, non, à part le fait que je trouve que c'est un projet...
À part que tu es secrètement amoureuse de moi.
Mais oui, mais ça, tout le monde le sait, c'est plus un secret, Gérald. Voyons. Non, mais je trouve que c'est un super projet dans l'idée, voilà, la façon de travailler. Moi, j'aime bien quand ça sort un peu des cadres. Je trouve ça très bien. Donc, Dès que tu avances dans le projet, que tu as des infos à faire passer, n'hésite pas.
Très bien, je prends note.
Avec plaisir. Alors merci Ingrid, merci Marilyn.
Merci Marilyn, merci Ingrid.
Merci Laurence. Merci Boris. Ça
aurait... Non mais merci, mais d'ailleurs quand même, Marilyn, parce que c'est Marilyn qui est revenue vers moi en me disant Ingrid a un projet, etc.
Oui, 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 c'est vrai qu'on revient au départ. C'est un
tout est grâce à moi en fait.
Mais c'est clair, c'est clair.
On dirait une secte un petit peu.
Très bien. Bon, ben Boris, merci d'avoir été là, d'avoir finalement réussi à passer
merci,
la
Bobo.
Chanson.
Merci, Bobo.
Parce qu'on a un autre morceau, là, je crois.
On a un autre morceau.
Ah, il est super, celui-là.
Alors, c'est quoi ? Vas-y, Ingrid.
Alors, c'est encore un mélange de culture, parce que j'adore les mélanges de culture, de Vincent Sigal et Monsieur Sissoko. Donc, un monsieur qui est né à Bamako et un autre qui est né à Reims.
D'accord.
Donc, c'est quand même assez improbable comme, comme disque.
Ouais.
Donc, parce que Vincent Sigal, qui est violoncelliste, il a plutôt beaucoup de projets en fait en collaboration avec d'autres qui n'ont rien à voir avec son univers. Donc je l'ai découvert, je l'ai vu en vrai en fait à l'Opéra de Lyon avec les Pokémon Crew par exemple.
D'accord.
Donc il a voilà des projets comme ça assez, j'aime bien. Et voilà, j'espère que ce morceau vous plaira.
Eh bien, on va l'écouter tout de suite et à la semaine prochaine sur les ondes de Pluriel Gay. Merci de nous avoir rejoints.
l'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.